C'est un chant dangereux que nous avons chanté. Nous avons soif de t'entendre. J'espère que c'est vrai. Parce que qu'est-ce qu'il va nous dire? Des choses qui nous plairont, nous plairont pas. Et ensuite, nous lui avons dit, manifeste-toi. Quand Dieu se manifestait dans l'Ancien Testament, des fois, c'était terrible. Alors, je suis toujours surpris, je le dis souvent, on chante des chants. Et parfois, on est tellement habitué à les chanter qu'on ne réfléchit plus aux paroles que nous prononçons. Et parfois, ce sont des paroles profondes et des promesses que nous faisons à Dieu par nos chants. Sommes-nous toujours conscients de ce que nous disons ou chantons? La parole de Dieu nous dit que nous devons être prudents quand nous ouvrons la bouche dans la maison de Dieu. Ce n'est pas qu'on ne doit plus chanter, hein, mais réfléchissons parfois à ce que nous disons et que nous puissions vraiment être vrais avec Dieu chaque fois que nous nous réunissons. Je ne vais pas trop parler trop fort parce que j'ai peur que ma voix ne tienne pas. J'ai trop crié sur ma femme. Et voilà le résultat. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'amour. Ça, c'est, je sais bien que les dames aiment bien des films d'amour. Mais je vais vous parler de l'amour de Dieu, cet amour infini. Et nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Jean, chapitre 13. Évangile de Jean, chapitre 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper, le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas, l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon, Pierre, qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange le pain avec moi a levé le talon, son talon contre moi. Je vous le dis déjà maintenant, avant que cela n'arrive, afin que lorsque cela arrivera, vous croyez que moi, je suis. » On ne va pas se laver les pieds, je n'ai pas apporté un bassin, quoique dans certaines églises, ça se fait encore, le lavement des pieds. Mais je vais le prendre plutôt comme plutôt symbolique. Jésus aime les siens. Ceux qui lui appartiennent, Jésus est rempli d'un amour profond et sans limite. Pour ses disciples, malgré les coups tordus qu'ils peuvent faire tout au long de son ministère. Ça n'a pas été toujours une partie de plaisir pour Jésus de travailler avec ses 12 disciples, lui en ont fait voir. Ils ont été incrédules. Enfin, ça a été difficile. Et encore plus à l'instant présent, sachant que c'est les dernières heures qu'il va passer sur cette terre avant la croix, et sachant aussi qu'il y avait un traître parmi les disciples. Parce que, malgré tout, Judas a été choisi par Jésus. Quand Jésus a choisi les 12 disciples, Judas était quelqu'un qu'il avait choisi. C'est pas quelqu'un qui s'est imposé. Jésus a choisi Judas. Et Jésus sait qu'il est en train de vivre les heures les plus sombres de son existence ici-bas. Il sait que le diable a achevé d'accomplir une œuvre destructrice sur Judas. Tout ça, il le sait. Mais Jésus aime. Jésus aime les siens, aime ses disciples, et il va leur prouver qu'il est venu comme un roi serviteur. Voilà ce que Jésus est venu faire sur cette terre. Malgré que Jésus est le roi des rois, le Seigneur et des seigneurs comme il se définit, Jésus s'abaisse au plus bas de l'échelle sociale. Il lave les pieds de ses disciples. Il aime malgré les circonstances tragiques qu'il vit. Jésus est capable encore d'aimer. Jésus reste humble dans son ministère. Et nous pouvons-nous imiter son exemple quand on nous fait des coups bas, quand on n'est pas toujours correct avec nous? Pouvons-nous imiter notre Sauveur? Nous qui chantons souvent, c'est pour ça que je dis faisons attention à ce que nous chantons, nous qui chantons souvent « Te ressembler Jésus ». Ah, nous connaissons ce chant-là, « Te ressembler Jésus ». Ressembler à Jésus, ça implique que nous nous comportions comme Jésus dans toute notre vie. Et Dieu sait si c'est difficile de ressembler à notre Maître. Chantons-nous ce chant vraiment comme une réalité? Le vivons-nous vraiment chaque jour? Je pourrais répondre non en ce qui me concerne. Réalisons-nous vraiment que nous devons avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, comme le dira plus tard l'apôtre Paul. Pouvons-nous aimer notre entourage comme Jésus aimait les siens? Pouvons-nous aimer notre entourage en sachant que nous n'avons pas que des amis qui nous entourent? Nous n'avons pas que des gens qui nous veulent du bien. C'est bien qu'ici, nous nous aimons tous. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, comme dans le film. Mais ce n'est pas toujours là le cas. Nous ne vivons pas dans une société de bisounours. Nous n'avons pas que des amis. Nous qui disons que l'amour de Dieu est en nous, en sommes-nous vraiment sûrs que cet amour est aussi profond? Notre amour est-il intéressé? Ou alors, est-ce un amour profond qui nous vient de Dieu? Parfois, nous comparons notre amour à notre degré de spiritualité. N'est-ce pas un peu d'orgueil tout cela? Mais moi, je fais ceci, moi, je fais cela, et on aime appuyer sur ce que nous faisons. Jésus aima les siens. Jésus aima les siens. Et il s'abaisse comme le plus vil des serviteurs, celui qui doit laver les pieds des invités. Ce n'était pas à Jésus de laver les pieds. Hein. C'était le serviteur qui lavait le pied des invités. Comme Jésus le fera remarquer quand la femme lui a versé du parfum sur ses pieds. Et je voudrais nous attarder par une autre lecture dans l'Épître aux Corinthiens. Le chapitre de l'amour, en regardant comment doit être notre amour, quelles en sont les caractéristiques, afin d'avancer un pas plus loin dans notre vie chrétienne. Et ces caractéristiques de l'amour, écrites dans cet épître, Jésus les possédait. Jésus possédait ces caractéristiques d'amour. Et à nous ce matin de nous en approprier. 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 13. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. Si je fais le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, et j'ai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je distribue tous mes biens aux pauvres, et si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement, nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Voyons, frères et sœurs, si nous ressemblons à notre Sauveur qui avait les caractéristiques de l'amour. Je sais que vous allez me dire, nous ne sommes pas Jésus, il est vrai. Mais dans notre marche spirituelle, il faut aller de l'avant et tendre vers cette perfection qui est devant nous. Voyons un peu quel est notre degré d'amour pour notre Dieu et pour ceux qui nous entourent. Voyons aussi notre état spirituel actuel. En supposant que notre communauté de Blégny possède tous les dons spirituels comme l'église de Corinthe, qui était riche en dons spirituels, et donc supposant que nous avons tous ces dons à notre disposition, nous serions aux yeux de nos semblables une église hyper spirituelle. Nous pouvons, frères et sœurs, passer pour un grand érudit, rempli de toute la connaissance, comme l'apôtre Paul nous le dit dans ce texte, pouvant expliquer la parole d'une façon éloquente, être une sorte de théologien, pouvant expliquer chaque verset de la Bible en nous donnant la signification de ce que cela veut dire en grec, en hébreu, en latin. En fait, parfois en mettre plein la vue et impressionner toute la communauté par notre savoir et notre connaissance. Mais l'apôtre Paul nous prévient, si nous n'avons pas l'amour, nous pouvons accomplir toutes sortes de miracles, pouvons déployer toute notre connaissance, nous pouvons prophétiser, mais si nous n'avons pas l'amour de Dieu en nous, cela ne sert à rien, cela n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Oui, on peut en mettre plein la vue auprès de nos frères et sœurs, mais pour Dieu, c'est zéro. Ça ne vaut rien. Bien sûr, sur le plan humain, nous sommes mis sur un piédestal. Nous disons, waouh, celui-là, quelle connaissance, quelle éloquence, quelle intelligence. Mais pour Dieu, ce que nous faisons ne représente rien. N'oublions pas que Christ nous a aimés jusqu'à la mort, et la mort de la croix par amour. Nous pouvons accomplir tout le bien que nous pouvons faire autour de nous, et je nous encourage à faire le bien. Mais si nous n'avons pas l'amour de Dieu en nous, Dieu nous dira, tout ce que tu accomplis ne représente rien pour moi, parce que l'amour n'est pas en toi, mon frère, ma sœur. Tu flattes simplement ton ego. Tu ne glorifies pas mon nom. Tu parais, mais tu n'as pas l'amour. Et ça, c'est triste parce que c'est un peu notre monde. Quand il y a des grandes opérations, la TV 448 et Télévis et tout ça, et que nous voyons que ING offre 200 000 euros, par exemple, c'est sûrement pas par amour qu'ils offrent 200 000 euros à telle opération, c'est tout simplement pour qu'ils disent « Ah, telle banque est formidable, c'est un effet de publicité, on le sait bien, tant mieux pour ceux qui reçoivent l'argent, mais c'est sûrement pas par amour. » Donc nous ne devons pas agir ainsi. Mais alors, c'est quoi l'amour ? Mais nous allons développer très brièvement, parce que il me faudrait plusieurs cultes pour parler vraiment de cet amour. Et je ne vais pas m'attarder, mais simplement survoler un peu, en quelques mots, ce qu'est cet amour. Examinons vraiment les caractéristiques de l'amour qui devrait être en nous, et demandons à Dieu de nous armer afin de posséder le maximum de caractéristiques pour progresser dans notre vie chrétienne. Au fond, c'est cela. Nous devons aller de progrès en progrès dans notre vie chrétienne. Et un des plus grands progrès où nous devons travailler le plus, bien sûr, c'est l'amour. Et j'en prends plein la vue aussi pour moi, parce que quand on prêche, bien d'abord on doit se le prêcher à soi-même, et après vous transmettre le message. L'amour est patient. La patience est une qualité difficile à obtenir. Et j'en parle par expérience, je ne suis pas quelqu'un de vraiment toujours patient. Surtout que nous vivons dans un monde qui va très vite, qui est impatient. Nous avons des ordinateurs qui nous permettent d'aller très vite dans toutes les recherches que nous devons faire. Et combien cette patience est indispensable, frères et sœurs, pour notre épanouissement spirituel et celui de l'Église. Surtout pour faire face à toutes les situations difficiles où nous sommes exposés. Souvenons-nous, frères et sœurs, de la patience de Job qui a dû patienter un temps certain pour pouvoir arriver à cette victoire et de sortir de l'épreuve. Pensons à tous ces hommes et femmes de Dieu dans la parole de Dieu et à travers les âges qui ont supporté patiemment les épreuves, les persécutions. Sachons, frères et sœurs, vivre selon le temps de Dieu. Ne forçons pas son temps, soyons patients. Et cette patience nous remplit d'amour. Ça, si nous sommes patients face à tout ce que nous devons subir, nous pouvons dire que nous sommes remplis de l'amour de Dieu. L'apôtre continuera en disant que l'amour est bonté. Être bon, ce n'est pas être bonbon. On dit souvent que bon et bête, ça commence par la même lettre. Et ce que nous devons faire, ce n'est pas spécialement être bon, bêtement bon, mais nous devons être remplis de la bonté de Dieu. Le dictionnaire Larousse nous dit que c'est une disposition de quelqu'un à être bienveillant, compatissant, charitable. C'est ça la véritable bonté selon Dieu. Avoir un regard rempli de bonté comme notre maître, qui savait voir dans le cœur des gens. Il savait regarder les autres avec bonté et tendresse, ce qui n'est pas toujours notre cas. Jésus savait s'émouvoir et pleurer sur les souffrances des autres, non pas nous détourner comme dans la parabole du Samaritain et vivre en égoïste. Savons-nous encore, frères et sœurs, nous émouvoir devant la souffrance d'autrui? Posons-nous cette question. L'amour n'est pas envieux. Nous vivons dans un monde rempli de jalousie. Nous sommes envieux, nous ne supportons pas d'être moins que notre voisin. Si notre voisin a une Porsche, on enrage à dire, comment ça se fait que celui-là Ah, une Porsche chez moi, j'ai une bête Renault Clio de les années 2000. Ou alors celui qui a un bel appartement, une belle maison, et moi, j'ai une vieille bicoque. Être envieux n'est pas un signe d'amour. Et sur le plan spirituel, si notre frère ou nos sœurs ou un ministère ou un service plus honorable ou plus intéressant que le nôtre, nous disons pourquoi lui, pourquoi elle sert Dieu, peut faire ceci, peut faire cela. Frères et sœurs, si nous sommes envieux, nous n'honorons pas Dieu et nous ne sommes pas remplis d'amour. Et tout cela est une entrave au bon fonctionnement de l'Église. L'amour ne se vante pas. Qu'as-tu plus que moi ou moi plus que toi? Si j'ai des dons et toi t'as d'autres dons, mais ça glorifie l'Église. Nous ne sommes pas enfants de Dieu pour nous vanter de toutes nos qualités, de tous les dons que nous avons. Même si Dieu nous donne des dons et des ministères au sein de l'Église, ce n'est pas pour nous vanter, mais c'est pour glorifier Dieu. Frères et sœurs, ne faisons pas étalage de ce que nous avons reçu de Dieu. Ce n'est pas un concours que nous faisons. J'ai ceci, toi tu n'as pas cela, non. Car moi je suis meilleur que toi, toi tu es inférieur à moi, non. Les dons et les capacités qui nous sont accordés par Dieu, c'est pour l'avancement de l'Église, afin qu'elle puisse grandir grâce aux dons qui sont mis à notre disposition. Et nous devons les utiliser avec amour. Notre service doit se faire avec amour, en toute humilité, et non pas pour faire des envieux. Remercions plutôt notre Dieu pour les dons qu'il dispense pour le bien de son Église. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil, est-il dit, ou n'est pas prétentieux. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute, nous dit Proverbe au chapitre 16, verset 18. Et un des grands pièges pour le chrétien, c'est l'orgueil. L'amour véritable ne peut pas être empreint d'orgueil. C'est ce qui fait chuter beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de chrétiens. Notre succès, nos réussites, nos victoires peuvent être des occasions d'être enflés d'orgueil. Nous devons les attribuer simplement à Dieu et à son amour. Écoutons ce que Paul disait à Timothée. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Sois persévérant en cela. En agissant ainsi, tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs. Notre amour dans l'enseignement que nous apportons doit nous faire agir avec prudence, car si notre enseignement n'est pas rempli d'amour, cela peut occasionner bien des dégâts au sein d'une église et au sein de notre communauté. Personne n'est à l'abri d'un sursaut d'orgueil. Et je continue, l'amour ne fait rien de malhonnête ou d'honteux. Nous vivons dans un monde où les lobbies de toutes sortes sont de grands influenceurs. Ils sont très actifs au sein de notre société et peuvent influencer aussi la vie de nos églises, leur façon de penser ou d'agir. Vivre dans l'air du temps, on entend souvent ça. Oh, vivre dans l'air du temps, ce n'est pas vivre comme la parole de Dieu nous l'enseigne, parce que c'est vieux jeu, c'est vieillot. Alors, frères et sœurs, faisons attention à nos écarts de conduite, que nous puissions rester honnêtes dans notre comportement, dans nos relations. Si nous faisons commerce ou quoi, de rester honnêtes, de ne pas tromper les gens, de ne faire rien de malhonnête. Pourquoi notre vie déraperait-elle? Faisons attention que notre vie soit conforme à la parole de Dieu, que l'Église soit en dehors de tout scandale et malheureusement, nous avons vécu et nous vivons encore au sein de nos églises, quelles que soient les confessions, eh bien, des choses scandaleuses qui ne glorifient pas Dieu, des choses malhonnêtes. Et l'Église perd de sa crédibilité au sein du monde. L'Église est en perte de vitesse. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas toujours marché dans les voies de Dieu. Parce qu'elle fait des choses malhonnêtes. parce qu'elle n'est plus remplie de l'amour de Dieu. Et alors, comment annoncer un message percutant à ceux qui en ont besoin si nous ne montrons pas l'exemple, si nous ne sommes pas remplis de l'amour de Dieu? Ne faisons rien qui serve nos propres intérêts, mais tout pour la gloire de Dieu. L'amour ne s'irrite pas sans cesse. Il y a des chrétiens qui sont constamment irrités, une véritable boule de nerfs. On n'ose rien leur dire. On n'ose pas leur adresser la parole qu'ils s'emportent. Ils s'irritent. Ils sont constamment fâchés. Ils ne sont jamais d'accord avec rien. Frères et sœurs, cela ne reflète pas l'amour de Dieu. Alors là aussi, attention à nos comportements. Notre témoignage en dépend. Et l'apôtre continue en disant « L'amour ne soupçonne pas le mal. » Il ne s'agit pas d'être un grand naïf, mais d'être vigilant. Malheureusement, certains chrétiens ne le sont pas. Dès que l'on dit quelque chose, qu'ils voient quelque chose, ils voient souvent l'aspect négatif de la chose et soupçonnent tout de suite le mal. On invente un tas de choses qui ne sont pas vraies. Et on colporte ces choses-là. On colporte le mal. On soupçonne le mal qui n'existe pas. Soyons prudents, frères et sœurs, de colporter des faussetés. Ça peut tuer la vie spirituelle, ça peut tuer quelqu'un. Ça peut blesser à vie quelqu'un quand on a colporté des fausses informations sur une personne. Et la bonne entente au sein de la communauté en dépend aussi. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Et bien souvent, consciemment ou inconsciemment, nous disons quand un frère ou une sœur passe par des moments difficiles, on dit souvent « Oh, il l'a bien mérité, celui-là. Il aurait dû se comporter différemment. » Même si c'était vrai, c'est vrai. Et qui n'a jamais dit ça? Ah, il n'a que ce qu'il mérite, on dit souvent. Bien sûr, on n'a peut-être pas tort. Mais ce n'est pas à nous de nous réjouir de l'injustice. Nous n'avons pas à faire de telles réflexions. Réalisons-nous parfois que nous portons des jugements au lieu d'être remplis de l'amour à l'égard des personnes que nous jugeons. À la limite, nous sommes contents de ce qui leur arrive. Nous serions prêts à appeler le feu du ciel à descendre sur eux, comme les disciples Jacques et Jean qui voulaient détruire tout un village parce qu'ils n'ont pas été reçus. Ce n'est pas de nous d'apporter ces jugements. Nous n'avons pas le droit d'agir ainsi. Où est notre amour? Nous invoquons parfois des puissances du mal sur nos frères et sœurs. Nous ne pouvons pas. Nous devons rester remplis de cet amour et cette attention pour ceux qui nous sont chers. L'amour se réjouit de la vérité. Voilà. Une des caractéristiques de l'amour. Nous vivons dans un monde rempli de mensonges, frères et sœurs. Il est dirigé par Satan, nous le savons. Ne faisons pas cette erreur de vivre dans le mensonge, mais réjouissons-nous de la vérité. Faisons attention à toutes les fausses vérités que nous entendons, que ce soit au niveau religieux. Faisons attention à ce que nous écoutons. Tout ce que les médias nous apportent n'est pas toujours vérité, frères et sœurs. Soyons prudents dans ce que nous entendons et ne nous nourrissons pas de fausses vérités, car c'est dangereux pour notre vie spirituelle. Vérifions toujours l'exactitude de ce que nous entendons. Ne nous engouffrons pas tête baissée dans ce que nous avons entendu, mais regardons toujours si c'est bien ce que la parole de Dieu nous enseigne. Faisons attention à l'enseignement. Et je continue très rapidement. L'amour pardonne tout. Je ne reviendrai pas sur le message que je vous avais porté il y a quelque temps sur le pardon. Mais il est certain que nous devons apprendre, c'est vrai, à nous pardonner les uns les autres. Mais attention, pardonner, je le répète, cela ne veut pas dire approuver ce que la personne fait. Je crois que si cette personne que nous avons pardonnée continue à vivre une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, cela ne nous regarde pas. Nous devons prier pour que cette personne revienne dans des bonnes conditions spirituelles. Mais pardonner, ce n'est pas toujours, ce n'est pas approuver ce que les gens font. Nous pardonnons et nous ne sommes pas responsables de leur conduite par après. Comme Jésus nous a pardonné, alors frères et sœurs, que nous étions impardonnables parce que nous avions coupé notre relation avec Dieu. Nous l'avions rejeté. Nous l'avons crucifié. Et Jésus nous a pardonné. Alors pardonnons comme Jésus nous pardonne. Mais Jésus pardonne, mais il ne supporte pas l'inconduite des gens. Il n'est pas tolérant vis-à-vis du péché. L'amour espère tout. En français courant, il est dit « L'amour garde la foi ». Gardons notre foi en Dieu, frères et sœurs. Mettons-lui notre confiance et notre espérance. Espérons et gardons confiance dans les prières que nous faisons. Espérons que ce que nous demandons dans nos prières, cela va se réaliser. Par exemple, quand nous prions pour que nos enfants reviennent au Seigneur, quand nous prions pour que des choses puissent se transformer, gardons cette espérance, soyons positifs dans notre comportement. L'amour, frères et sœurs, est rempli d'espérance. L'espérance avec amour qui nous fait attendre la venue de son Fils. L'espérance envers notre entourage, envers les prières que nous faisons monter. Nous espérons que Dieu va les exaucer. Nous croyons qu'il exauce. L'amour supporte tout. Il persévère. Malgré les difficultés qui sont souvent sur notre route, il nous est demandé de supporter tout, de persévérer dans notre marche, et cela avec amour, sans se décourager, car nous sommes remplis de l'amour de Dieu. Et je peux dire que l'amour demeure, l'amour ne meurt jamais. Même après notre départ de cette terre, si nous avons déployé de l'amour, ce que nous avons fait restera. Nous sommes, comme dirait l'Épître aux Hébreux, entourés d'une nuée de témoins qui nous ont précédés et qui ont accompli des choses extraordinaires, qui ont été des gens qui ont été remplis d'amour. Donc notre témoignage subsistera après notre départ si nous avons agi avec amour. Foi, espérance et amour demeureront éternellement. Mais l'amour est au-dessus de tout. L'amour de Dieu a poussé son Fils à mourir pour nous, à se comporter comme un serviteur. Car il a mis le comble à son amour. Le comble à son amour, c'est vrai, il a lavé le pied de ses disciples, il a voulu montrer qu'il savait s'abaisser. Mais le comble de son amour l'a porté jusqu'à la croix. Et nous sommes en cette période de Pâques où nous nous souvenons du sacrifice de notre cher Sauveur qui a accompli cela parce qu'il nous aimait. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est un acte d'amour terrible que Dieu a fait. Il s'est séparé de son Fils. Il a coupé cette relation avec son Fils quand Jésus s'est écrit sur la croix « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous nous sommes déjà posé cette question-là. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Tout simplement parce qu'il nous aimait. Parce que Dieu nous aimait, il a dû abandonner son Fils, le livrer en pâture, comme cela, porter tous les péchés de chacun d'entre nous pour que nous ayons cette liberté d'aimer, de recevoir sa paix, de recevoir le salut. Frères et sœurs, notre foi doit être bien ancrée profondément et notre espérance en une vie éternelle avec lui, c'est une réalité. Mais si derrière tout cela, il n'y avait pas l'amour de Jésus, cela n'aurait aucune valeur. Si ce que nous avons aujourd'hui comme salut est bien là, en évidence dans nos vies, c'est parce que Jésus nous a aimés jusqu'à la mort. N'oublions jamais que Jésus a mis le comble à son amour. Ça lui a coûté la vie, l'abandon du Père. Alors, frères et sœurs, nous lui devons une reconnaissance éternelle et un amour sans borne. vis-à-vis de lui et vis-à-vis des autres. Amen. Seigneur notre Dieu, tu nous as aimés. De quel amour tu nous as aimés? Tu as envoyé ton Fils pour subir la condamnation. Tout cela parce que tu nous aimais. Seigneur, pardonne-nous parce que nous ne savons pas toujours aimer comme toi. Nous n'avons pas toutes les caractéristiques de l'amour que nous avons énumérées. Nous devons être honnêtes devant toi, Seigneur. Je n'ai pas tout ça. Des fois je l'ai et des fois j'oublie. Et je crois que nous sommes tous comme ça. Seigneur, ce matin, rappelle-nous comment aimer, comment t'aimer. Que nous puissions demeurer fermes dans cet amour. Et ce matin, nous voulons vraiment te remercier d'avoir accepté de quitter le ciel de gloire pour vivre ici-bas et accepter la mort sur la croix. Seigneur, en retour, reçois notre amour, mais il est bien imparfait. Et ce matin, nous te demandons de nous façonner afin que nous puissions t'aimer et nous aimer encore mieux. Amen.